journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs. Pendant 30 minutes, l'antenne de la radio africaine vous appartient. Aujourd'hui, nous attendons vos réactions et vos questions au dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Les spécialistes du climat tirent à nouveau la sonnette d'alarme. Le nouveau rapport du GIEC confirme que l'augmentation de la température de 1,5 degré sera bel et bien effective d'ici 30 ans. Alors, quelles seront les conséquences de cette augmentation et pourquoi les États peinent-ils à transformer leur mode de production et de consommation? Nous en parlerons avec François Gémen. Il est spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Pour intervenir, nous faire part de vos avis, poser vos questions à notre invité, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et depuis partout ailleurs dans le monde. N'oubliez pas l'indicatif 00 33 1 55 07 58 00. Mais avant de parler du sujet du jour, on se tourne vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter quelques-uns des messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Amis du JDA, bonjour. Voilà, il y a eu l'émission sur le Cameroun dans cet après-midi concernant les élections. Bon, bah écoutez, comme toujours, j'ai entendu beaucoup de choses, notamment sur la complexité de ces pays avec toutes les choses qu'on ne comprend pas. Mais en fait, la chose est beaucoup plus simple. Si on prenait un peu l'histoire de ces pays, on comprendrait beaucoup de choses. Je rappelle à certains qui ne savent peut-être pas, le Cameroun, à la base, c'est un État créé par des Allemands, c'est important, qui faisait donc près de 800 000 km². L'arrivée des Anglais et des Français a découpé ces pays pour en faire quelque chose de 400 000 km². Voilà. Alors, je ne sais pas si vous comprenez un peu le traumatisme des Camerounais, notamment quand on a perdu le référendum de 1961 qui a cédé une partie du territoire camerounais au Nigeria. Et par-dessus tout, le Cameroun est quand même le seul État en Afrique francophone qui a fait la guerre contre l'occupant. Et il a payé très très cher ce prix. Donc, par conséquent, les gens, en matière de guerre, ils s'y connaissent. Ils s'y connaissent. Je pense que Boko Haram s'est un peu trompé parce qu'il pensait continuer à faire un peu ses méfaits comme il a l'habitude de faire. Mais sauf qu'ils sont tombés sur une armée combattante qui a l'habitude de combattre et qui l'a stoppé. Donc, quand on parle du vieux président, ainsi de suite, il faut comprendre un peu pour quelles raisons les Camerounais ne sont pas toujours prêts à se lancer dans des batailles que nous jugeons, nous, inutiles. Bonne journée à tous et à bientôt.
Oui, bonjour, amis de Julien. J'appelle ce matin, c'est pour à propos de ce qui se passe comme tension aujourd'hui après les élections présidentielles au Cameroun. Moi, je dis ceci. Dans un pays normal, dans un pays de démocratie, nous tous, on le sait. Lorsqu'on vote, les citoyens votent, on ne doit pas attendre 2 semaines, je dis bien 2 semaines, 15 jours, pour prononcer le résultat. Ça veut dire que dans les 15 jours-là, ça leur donne tout le temps de manipuler. Dans un pays qui a la démocratie, c'est la même, un même soi-même qui a la prétendant. Au Cameroun, il est strictement interdit de donner les pronostics. Il est strictement interdit de prononcer le nombre de voix qu'on a voté. Il est interdit de parler des élections. Mais vous savez que nous sommes en quelle année aujourd'hui? Franchement, je me demande que, est-ce que le gouvernement camerounais, il se rend compte que le monde a évolué? Il se rend compte que le média international nous suit partout dans le monde entier? Nous sommes en quelle année? Même le Mali, qu'on dit qu'un pays sous-développé, a donné ses résultats en moins de 3 jours. Mais où va le monde? Mais le temps de dire que 2 semaines, c'est le temps de manipuler les urnes. Je me dis ceci, que Maurice Kamto, et j'assume mes paroles, Maurice Kamto a pleinement raison de dire qu'il a tiré le pénalty et il a marqué. J'espère que le résultat des urnes donnera vraiment le vrai vainqueur pour que le Cameroun soit en paix. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ce pays. Merci.
Bonjour Madame Hartmann. Bonjour les amis des JDA. Bonjour le peuple africain et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Peuple congolais, serrons la ceinture et serrons les taux pour mettre le clan de boulanger Kabila les dos contre le mur. Parce que nous sommes prêts à les capturer, nous sommes prêts à les prendre le main dans les sacs. Parce que nous sommes déterminés à libérer le Congo par l'unique et la seule option que nous sommes en train de faire et nous préconisons tous les jours, nous le peuple congolais, c'est le départ pur et simple de Kabila de la République démocratique du Congo à Ikomo Pongiré sans combattant RCK.
Ben, bonjour cher ami auditeur, bonjour Madame Stéphanie Ackman. Je voulais dire deux mots, c'est au sujet des auxiliaires de vie, puisque je suis auxiliaire de vie. J'ai l'impression que l'auxiliaire de vie n'est pas considéré. Ce travail qui est tant difficile à faire, les associations nous usent, nous font travailler comme des gens qui n'ont pas du sang dans leur corps. Mais quand il y a le débat, on ne parle jamais des auxiliaires de vie. On parle des aides-soignantes, on parle des infirmières, on parle des médecins. Mais l'auxiliaire de vie, elle fait le travail de base. L'auxiliaire de vie, elle fait la toilette, elle lave les gens, elle ramasse des déchets. Elle fait plein de choses que les gens ne savent pas. Au moins qu'on parle un peu d'auxiliaire de vie. Nous sommes payés avec les miettes. Mais personne ne considère ce métier. Pourtant, c'est un métier digne, comme tout métier qu'on le fait. Et très fatigant. Parce que ce qu'on supporte dans les maisons, dans les quatre murs, c'est nous seuls qui savons. Madame Stéphanie Ackman, je vous en prie, c'est Madame Guessant. Parlez un peu des auxiliaires de vie. Menez un débat un peu sur ça, je vous en prie. Merci à vous, Madame Stéphanie Ackman. Bonne journée, cher ami auditeur. Merci.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages et bien entendu, hein, Madame Guessant. Votre appel à un débat autour du travail pénible des auxiliaires de vie et parfois mal rémunérés surtout. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, nous attendons vos réactions et vos questions autour de la question du réchauffement climatique. Un nouveau rapport signé du GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, tire la sonnette d'alarme. Si nous ne mettons pas en place des mesures drastiques et immédiates pour lutter contre le réchauffement de la planète, les conséquences pour le vivant seront désastreuses, estime ce groupe d'experts. Nous en parlons tout de suite avec François Gémen, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. François Gémen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, si j'ai bien compris, le dernier rapport du GIEC se penche sur deux scénarios. Dans le premier, l'augmentation de la température de la planète de 1,5 degré, et dans l'autre, une augmentation de près de 2 degrés. Globalement, quelles seraient les conséquences d'une augmentation de 2 degrés sur la biodiversité et sur notre quotidien, et en quoi 1,5 degré ferait une différence ?
Disons que ce nouveau rapport spécial du GIEC a été commandé sur le scénario de 1,5 degré qui avait été introduit notamment par les petits États insulaires dans l'accord de Paris. Et ce que le rapport montre, c'est que chaque dixième de degré fait la différence et que 1,5 degré et 2 degrés, par exemple, c'est pas la même chose. Et que en termes d'inondation, en termes de canicule, en termes d'érosion de la biodiversité, en termes de hausse du niveau des mers, c'est pas du tout la même chose de viser 1,5 degré plutôt que 2 degrés. Alors, on sait malheureusement que l'objectif de 1,5 degré sera extrêmement difficile à atteindre. Il faudrait que d'ici 2050, au niveau mondial, nous arrivions à zéro émission nette, c'est-à-dire que toutes nos émissions de gaz à effet de serre soient compensées par du carbone retiré de l'atmosphère. Mais néanmoins, ça nous montre quand même, d'abord, que il n'y a pas d'obstacle technologique ou économique a aujourd'hui essayé d'atteindre cet objectif de 1,5 degré. Ce qui bloque véritablement, c'est la volonté politique. Et c'est vraiment ça que met en lumière le rapport, c'est que ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est l'absence de volonté politique.
Vous essayerez de nous expliquer justement dans quelques instants pourquoi il y a cette absence de volonté politique. Mais finalement, du coup, comme l'un des principaux objectifs de l'accord de Paris signé il n'y a pas si longtemps, en 2015, était de limiter l'augmentation de la température mondiale à 2 degrés, est-ce que cet objectif est déjà caduque finalement ?
Cet objectif paraît très très difficile à atteindre, parce que autant en 2015, je dirais, les signaux étaient encore relativement optimistes, il y avait une sorte d'unanimité mondiale pour atteindre cet objectif de 2 degrés. Le problème, c'est que sur les 3 années qui se sont écoulées depuis la signature de l'accord de Paris, eh bien, beaucoup de pays ont renoncé ou retardé leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris. La Russie va se retirer à la fin de cette année, ou plutôt elle ne déposera pas ses instruments de ratification. Si le candidat d'extrême droite est élu au Brésil, il a déjà annoncé qu'il se retirerait aussi de l'accord de Paris. On a le gouvernement australien qui est tombé lorsqu'il a voulu faire inscrire les objectifs de l'accord de Paris dans une législation nationale. Et même la France n'est pas du tout dans les clous pour atteindre ses objectifs de l'accord de Paris. Et donc on se rend compte aujourd'hui que la plupart des gouvernements se trouvent incapables de tenir les promesses qu'ils avaient faites en 2015.
Merci François Gémen. Restez à l'écoute. On va donner la parole aux auditeurs 01 55 07 58 001. Venez nous dire si cette question du réchauffement climatique vous inquiète et si finalement dans votre quotidien aussi vous essayez peut-être de lutter contre cela. On va se diriger du côté de Montréal, retrouver Abdel. Abdel, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, comment vous allez?
Je vais bien Abdel, et vous-même?
Oh, on se porte très bien, il y a un beau climat qui s'installe tranquillement.
Il fait beau à Montréal, c'est ça? En attendant les...
Oui, on a 20 degrés, c'est beau.
Alors est-ce que c'est un signe de réchauffement climatique, selon vous?
Ben oui, aujourd'hui là on ne maîtrise plus rien, il y a des variations dans tous les sens, des hauts et des bas, rien n'est plus comme avant, tout est décalé. Et puis on s'inquiète vraiment des réchauffements climatiques, on s'inquiète. Et malheureusement, ce que dit votre invité, il dit que c'est l'absence de volonté politique. Ce n'est pas absence de volonté, il n'y a pas d'absence. Il y a vraiment une volonté politique, mais elle est orientée ailleurs. Parce que c'est vrai, le comportement des humains font en sorte qu'aujourd'hui, on consomme plus, on fait tout ce qu'on veut. Mais le comportement moral, on fait une promotion de tout ce qui était abomination et qui fait que la nature peut se déchaîner autrement. Et c'est prévu
là, j'ose pas savoir où vous m'emmenez, Abdel. Vous m'emmenez pas là, quand même.
N'en est pas loin. Vous allez voir, je parle que les écosystèmes, on y a prévu que le comportement des humains, quand elle va être rétrograde, la nature peut se déchaîner.
Vous nous parlez de l'apocalypse biblique, si j'entends bien.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est déjà écrit. Hein, aujourd'hui, les politiques sont foncées de faire la promotion de tout ce qui est abomination.
Bon, restons Abdel Wassi, parce que moi, j'ai pas du tout envie d'aller sur ce terrain-là, que je trouve plutôt dangereux et pas très intéressant d'ailleurs. Restons sur la question des ouragans, François Gémen, et des... Finalement, des variations climatiques de température, voilà, Abdelaziz, il fait beau aujourd'hui, c'est vrai qu'en France aussi, on a plutôt une sorte d'été indien. Est-ce qu'on peut dire que les conséquences du réchauffement climatique se font déjà sentir, notamment dans les pays tempérés, je veux dire?
Bien entendu, nous le voyons ici aujourd'hui à Paris, où il fait 26 degrés en plein mois d'octobre, nous le voyons un peu partout avec les canicules et avec le fait que les records de chaleur sont battus année après année. L'année 2014, par exemple, a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Record battu par l'année 2015, record lui-même battu par l'année 2016. Et donc, on voit que, bien entendu, dans les pays industrialisés, les impacts du changement climatique se font déjà sentir, mais c'est bien pire encore dans les pays en développement, et particulièrement dans les pays d'Afrique subsaharienne ou dans les pays du Sud et du Sud-Est asiatique. C'est là-bas que les impacts du changement climatique se font le plus durement ressentir. Et donc, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que nous ressentons ces impacts aujourd'hui? Parce que ce sont la conséquence des émissions de gaz à effet de serre que nous avons produites dans les années 50 et 60. Il y a un laps de temps d'environ 50 ans, deux générations qui s'écoulent entre le moment où nous envoyons dans l'atmosphère des émissions de gaz à effet de serre, du dioxyde de carbone en particulier, et le moment où le climat réagit. Ce qui veut dire que les impacts du changement climatique que nous subissons aujourd'hui, ce n'est pas le résultat de nos propres émissions, mais le résultat des émissions de nos parents et grands-parents. Et comme nous n'avons pas cessé depuis d'augmenter sans cesse nos émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'au cours des 50 prochaines années, la situation va aller de mal en pis.
D'ailleurs, vous le dites, ou en tout cas les chercheurs le disent, la température de la Terre a déjà augmenté de 1 degré depuis l'ère pré-industrielle. Tout à l'heure, vous évoquiez...
1 degré en moyenne, ça veut dire qu'il y a des variations tout à fait importantes selon les régions du monde. Il y a déjà des régions qui ont connu des hausses de température de l'ordre de 2 ou 3 degrés. On va arriver à 1,5 degré d'ici 2030. Et l'objectif, ça reste de maintenir la hausse à 2 degrés maximum d'ici la fin du siècle. Le problème, c'est qu'au train où nous sommes partis pour le moment, on est parti pour 4 degrés d'augmentation moyenne de température d'ici la fin du siècle. Ça veut dire que certaines régions connaîtront des augmentations de température de l'ordre de 7, 8 degrés. Vous imaginez les conséquences pour l'agriculture, par exemple.
Comment ça va se traduire? Ça va se traduire par des rendements agricoles beaucoup moindres, des poches finalement sur le plan peut-être géopolitique, des poches de famine?
Tout à fait. Donc ça va se traduire d'abord par des rendements agricoles beaucoup moindres. Il faut se rappeler qu'en Afrique subsaharienne, par exemple, environ la moitié des ménages dépendent de l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus, et donc l'impact pour eux va être terrible. Ça va se traduire aussi par une hausse du niveau des mers, qu'on Nathan comme supérieur à un mètre d'ici la fin du siècle, ça veut dire que plusieurs côtes vont être inondées, ça veut dire qu'il va falloir déplacer des populations entières, et puis il y a un impact aussi sur toute une série de phénomènes sociaux, sur les migrations, sur les conflits, sur la santé publique, et donc on n'est pas du tout face à un dérèglement qui serait uniquement environnemental, c'est un dérèglement qui va affecter tous les secteurs de la vie en société.
Certains écologistes parlent même d'un effondrement de notre monde. Alors vous évoquiez tout à l'heure, François Gémen, la difficulté de la difficile plutôt volonté politique. Des accords sont signés et pour autant voilà, les États s'en retirent et n'appliquent pas leurs engagements. Est-ce que finalement c'est difficile pour les États de tenir leurs engagements parce que limiter la hausse de la température nécessiterait aussi peut-être de bouleverser des modes de consommation et des modes de production ? Est-ce qu'il y a un monde à réinventer finalement ?
Absolument, c'est une véritable révolution de notre mode de production et de consommation dont nous avons besoin aujourd'hui. Et si les gouvernements n'y arrivent pas, c'est aussi parce qu'ils font face, quelque part, à des demandes contradictoires. Il y a bien entendu, la population est concernée par la question du changement climatique, mais la question c'est, est-ce que nous sommes capables de changer radicalement nos modes de vie ? Est-ce que nous sommes capables de sortir des énergies fossiles ? Et là, malheureusement, les gouvernements essaient souvent de contenter des intérêts souvent contradictoires, et c'est pour ça, finalement, que rien ne se passe et qu'on ne bouge pas.
Qu'est-ce que cela signifierait pour nous, Français, dans notre quotidien, cette révolution ? Est-ce que ça signifierait consommer moins d'énergie, consommer moins d'eau, manger différemment ?
Ça voudrait dire surtout, avant toute chose, sortir des énergies fossiles. Ça veut dire en France, par exemple, qu'une entreprise comme Total serait par exemple en grande difficulté. On sait que c'est un des principaux employeurs, un des leaders du CAC 40, Total. Ça voudrait dire passer intégralement aux énergies renouvelables, et on sait à quel point nos économies restent ancrées dans la production, dans la consommation de pétrole, de charbon et de gaz. Et donc ça serait la principale mesure aujourd'hui à mettre en place, mais on voit qu'on en est toujours très très loin.
Je rappelle aux auditeurs, s'ils veulent vous poser des questions, qu'ils peuvent intervenir au 01 55 07 58 00. C'est un signe, hein, peut-être, je pense, qu'ils vous écoutent. Alors, dans ce contexte, François Gémen, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique, continent encore faiblement industrialisé, continent qui émet très peu de gaz à effet de serre, a une épingle à tirer du jeu, finalement, en proposant un développement durable, en développant autrement ?
C'est en Afrique que beaucoup va se jouer. Parce que l'Afrique représente aujourd'hui 4% seulement des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et que donc l'Afrique ne porte qu'une très faible responsabilité dans le problème, 4% seulement. Mais par contre, c'est en Afrique, et singulièrement en Afrique subsaharienne, que les impacts du changement climatique vont se faire le plus durement ressentir. Donc ça veut dire qu'il y a une grande injustice géographique pour l'Afrique, qui n'est que très peu responsable, mais qui pourtant sera la principale victime. L'autre élément, c'est de voir comment le développement de l'Afrique va s'effectuer. Est-ce que ce sera un développement fondé sur les énergies fossiles, comme ça a été le cas pour l'Europe ou pour l'Amérique du Nord, ou est-ce qu'au contraire, l'Afrique va pouvoir se développer à partir des énergies renouvelables ? Ça sera là le gros enjeu. Et puis l'autre enjeu, c'est de voir comment les pays africains vont pouvoir s'adapter aux impacts du changement climatique, comment ils vont pouvoir protéger leurs côtes, comment ils vont pouvoir transformer leurs systèmes agricoles. Il y a donc des défis gigantesques pour l'Afrique liés au changement climatique.
On entend effectivement ces défis gigantesques pour les pays africains, mais aussi les pays occidentaux. Il y a Kabilo TL Kabilo qui nous dit sur Facebook, les Africains ont besoin d'une aide pour reboiser le continent. Est-ce que cette révolution qui semble nécessaire quand on vous entend, et qui, en tout cas qui est nécessaire quand on vous entend et quand on lit le GIEC, nécessite aussi beaucoup de fonds, d'argent ?
Bien sûr. C'est pour ça que l'accord de Paris prévoit un fonds très important qui s'appelle le Fonds vert pour le climat, qui sera enclenché à partir de 2020. Et ce fonds, normalement, devrait fournir 100 milliards par an pour le climat, et notamment pour aider les pays africains à la fois à s'adapter aux impacts du changement climatique, mais également pour les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, un gros enjeu des négociations, c'est que le compte n'y est pas pour le moment. Et la question, c'est qui va mettre la main au portefeuille et qui va recevoir l'argent. Ce sera un des gros enjeux des nouvelles négociations sur le climat qui s'ouvriront au mois de décembre à Katowice en Pologne.
Alors il y a Hassan qui nous dit « Le changement climatique nous touche en Afrique alors que l'Afrique n'est pas un grand pollueur ». On va écouter Brice qui nous appelle au 01 55 07 58 00. Brice, bonjour.
Bonjour, en fait, juste une question. L'Afrique n'a, pour moi, c'est ma traduction, n'a pas d'épingle à tirer du jeu, puisque en fait, de toute façon, qui dit énergie renouvelable dit industrie de l'énergie renouvelable, parce que les éoliennes, ça sort bien d'une industrie, ça ne sort pas des vergers dans une plaine, et tout ce qu'il y a autour de l'énergie renouvelable sort d'industrie, et industrie que les Africains n'ont pas, et que si demain, pour des raisons économiques, ils veulent se doter de ces industries-là pour justement passer justement à l'écologie, eh ben ils vont polluer. Donc du coup, ils sont condamnés à ne pas évoluer et à consommer ce que les autres produiront pour qu'eux ne polluent pas, alors qu'ils sont les derniers pollueurs. Donc je pense pas que ce soit une bonne analyse de dire que les Africains ont leur épingle du jeu à tirer.
C'était mon expression et c'était une question, Brice. Mais vous touchez du doigt peut-être.
Non, je parle pas de vous.
Non, il y a pas de souci, Brice. Merci de votre appel en tout cas. Mais vous touchez du doigt une chose intéressante. François, j'émène certains chercheurs, je sais pas comment on peut les appeler, en tout cas même journalistes. Hein, je pense à un livre de Monsieur Pitron sur les énergies renouvelables, estime que finalement. Une voiture comme une voiture électrique, si on apprend sur tout son parcours de vie, du début de l'innovation à la question de recyclage, justement, la question des énergies renouvelables et des énergies propres ne sont pas si propres que ça. Qu'en pensez-vous ?
Une voiture électrique, c'est pas du tout à base d'énergie renouvelable. Une voiture électrique, c'est donc à base d'électricité, et cette électricité aujourd'hui reste très largement produite à base de la combustion d'énergie fossile, de pétrole, de charbon. Ou de gaz. Donc les voitures électriques, c'est pas du tout de l'énergie renouvelable. Ce qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est des énergies qui sont basées sur le soleil ou sur le vent, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, par exemple, ou l'énergie marémotrice. Alors, bien entendu, il y a un coût écologique pour fabriquer des éoliennes ou pour fabriquer des panneaux solaires. C'est certain que voilà, les panneaux solaires sont fabriqués à partir de terres rares, dont l'extraction en Chine notamment, est assez polluante. Oui. Néanmoins, soyons clairs, il ne s'agit pas du tout de choisir entre la peste et le choléra. Le coût écologique des énergies renouvelables est infiniment moindre que celui des énergies fossiles. Et donc ceux qui aujourd'hui qualifient les énergies renouvelables d'énergie pas propre ou d'énergie sale sont des gens qui sont généralement à la solde des industries des énergies fossiles et qui cherchent à discréditer ces énergies qui sont pourtant la seule porte de sortie.
C'est très clair. Merci François. J'aimerais rester encore à l'écoute. On va écouter Sekou. Alors je crois que Sekou nous appelle depuis Dakar. Sekou, bonjour.
Ah, oui, bonjour.
Vous êtes à Dakar?
Non,
non,
je suis pas,
pas du tout. Il y a marqué Dakar sur ma fiche, c'est pour ça. Mais bienvenue quand même. Non, Sekou.
En région parisienne, non.
Bonjour Sekou, bienvenue.
Bonjour, ça va?
Ça va très bien et vous?
Ouais, ça va. Moi j'avais trois choses à dire.
Allez-y.
Par rapport à ça. La première, c'est que je trouve que c'est une foutaise. Les pollueurs. C'est les premiers pollueurs, c'est les grosses industries, tout ça, les Européens, les Américains et la Chine, etc. Et maintenant, on veut demander à faire des efforts aux Africains ou à autres, alors que c'est eux les premiers, c'est eux qui polluent tous. Là, par exemple, en région parisienne, on nous dit les voitures, ils polluent beaucoup, donc on va essayer d'enlever le diesel. Alors qu'il y a des industries qui polluent beaucoup plus que les voitures, vous voyez. Et la deuxième chose, c'est que l'Afrique, dans ce sens-là, dans son développement, elle peut utiliser le fait que les anciens, les premiers qu'ils ont utilisé l'industrie, comment ils l'ont fait pour utiliser les énergies renouvelables, c'est-à-dire tirer son épingle du jeu, comme certains disent. Mais après, est-ce qu'il y a le savoir-faire qui est adéquat pour faire ce travail-là? Après, il y a la troisième chose aussi, c'était dans le même sens. Voilà.
La troisième chose, c'était quoi, ces coups?
C'était dans le même sens, c'était dans ce que je voulais dire, dans tout.
D'accord.
La deuxième chose, voilà, c'est ce que je voulais dire, moi.
Merci, ces coups. On ne sent pas très convaincu, finalement, sur ces questions de réchauffement climatique. En tout cas, au niveau individuel, vous dites, finalement, ce n'est pas à nous de faire des efforts individus, c'est plutôt aux grandes entreprises, c'est bien ça? Non.
Allô?
Oui, ça a coupé. Vous m'avez entendu? Non.
Bon, c'est... Oui. Oui, j'ai entendu.
Oui.
Oui, en fait, on demande par exemple aux automobilistes en région parisienne de faire des efforts, alors qu'il y a des plus gros pollueurs en fait. Et en plus, en Afrique, voilà, c'est ça la troisième chose que j'ai oublié, c'est qu'en Afrique, les industries qui polluent, ce sont des entreprises européennes, Total qui produit, et Total ou le bauxite en Guinée, c'est des entreprises qui ont un savoir-faire européen occidental qui viennent en Afrique s'implanter et détruire tout. C'est-à-dire bauxite, l'impact géologique qui est actuellement en Guinée est dû à l'exploitation de la bauxite, est dû à des entreprises qui sont pas africaines, qui sont européennes ou américaines ou autres. Pareil pour l'or, pareil pour les mines qu'ils font, etc., etc. Donc c'est la troisième chose que je vais dire, je viens de me rappeler.
Merci beaucoup, Sekou. On entend beaucoup ce discours, François Gémen, vu du continent africain aussi, en effet, et en disant nous ne sommes pas les pollueurs et finalement ils viennent polluer chez nous. Est-ce qu'on peut dire aussi que bien que l'Afrique, vous l'avez dit d'ailleurs, que c'est la première touchée, bien que l'Afrique n'est pas responsable des émissions de gaz à effet de serre, elle a intérêt à se mobiliser elle aussi, mais en tout cas les pays africains ont intérêt à se mobiliser eux aussi, parce que de toute façon ils auront des conséquences du réchauffement climatique, ils souffrent déjà du conflit.
Aujourd'hui, c'est l'intérêt de tout le monde. Et si on ne fait rien depuis 20 ou 30 ans, c'est un peu parce que tout le monde se rejette la faute et que les industries disent « Ah non, c'est d'abord au comportement individuel de changer », que les automobilistes disent « Ah non, c'est d'abord aux industries », que les Européens disent « Nous, on a déjà fait l'effort, donc maintenant, c'est aux Américains ». Et donc, le problème, c'est que tant qu'on va chercher à diviser l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la base du partage des responsabilités, on ne va arriver à rien parce que chacun, malheureusement, et j'en suis le premier désolé, va chercher à nier sa responsabilité et à rejeter sa responsabilité pour l'autre. Aujourd'hui, il faut que tout le monde fasse ce qu'il peut faire et fasse le maximum. Et malheureusement, on n'a plus le temps, on n'a plus le loisir de chercher les responsabilités des uns et des autres. Et il faut bien comprendre, notamment pour l'Afrique, que c'est l'intérêt de l'Afrique de passer directement aux énergies renouvelables. C'est ça l'énergie d'avenir. On sait parfaitement que les énergies fossiles sont des énergies du passé. Et donc, c'est un calcul de très court terme que d'investir dans les énergies fossiles.
Et dans les pays du Nord, on entend aussi, et dans les démocraties, on entend aussi que les citoyens ont un rôle à jouer, puisque c'est aussi des citoyens qui ont élu Donald Trump, qui est sorti de l'accord de Paris, qui vont peut-être élire Bolsonaro. J'ai une dernière question de Serge, on ne va pas prendre Serge, mais Serge s'interroge, alors il me cite encore la Bible, mais c'est juste pour dire que dans la Bible, il était souvent écrit que la sécheresse guettait la terre. Alors voilà, Serge, je ne comprends pas pourquoi on dit que dans le Sahara, avant, était recouvert de forêts, plutôt, et d'eau, et qu'aujourd'hui, c'est un désert, alors qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Je ne sais pas s'il y avait une réponse à lui apporter.
Si, il y a toujours eu des phénomènes de réchauffement climatique, et le climat fonctionne par cycles, dont certains sont des cycles naturels. Simplement, ce sont des cycles qui s'étalent sur plusieurs milliers d'années. Ici, le problème, c'est que nous forçons ce cycle à cause de nos propres émissions de gaz à effet de serre, et que des changements climatiques qui s'étalaient normalement sur plusieurs milliers d'années, aujourd'hui sont concentrés en l'espace d'un siècle. C'est ça tout le problème, c'est que nous forçons un cycle de changement climatique, mais il y a toujours eu des changements climatiques sur Terre, et il y en aura encore dans le futur, et certains beaucoup plus importants que le changement climatique actuel. Le véritable problème de ce changement climatique que nous causons, c'est que nous habitons sur Terre. Ce sont les conditions d'existence de la population, en particulier des populations les plus vulnérables. Et donc, il ne s'agit pas du tout de sauver la planète ou de sauver le climat, il s'agit de nous sauver nous-mêmes.
C'est très clair, François Gémen. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On arrive à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Bonne journée à vous, François Gémen. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/journaldesauditeurs ou sur Twitter, @JAuditeur. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure vers 19h20, juste après le grand débat de Francis Laloupeau. Mais sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle édition du JDA. En attendant de vous retrouver demain, prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique radio africaine. À demain.